Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Ça fait des mois qu'on en parle et c'est enfin officiel depuis aujourd'hui, samedi 24 janvier, la ville de Mons est la capitale européenne de la culture pour l'année 2015. Au programme, près de 1000 activités culturelles et artistiques réparties dans 17 villes, entre Gand et Lille notamment. Bref, un événement majeur, culturel, qui risque bien d'attirer les foules. Pour autant que les œuvres ne s'écroulent pas, diront sans doute les mauvaises langues. Mais tous les publics pourront-ils profiter de cet océan d'offres culturelles? Car à vrai dire, n'y a-t-il pas de barrière à l'accès à la culture? Et d'ailleurs, qu'appelle-t-on culture? Faut-il distinguer la culture populaire et la culture dite institutionnelle? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités. Dominique Guéraumes, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire fédéral du MOC, le mouvement ouvrier chrétien dans la région de Hainaut-Centre. Vous êtes aussi cofondateur et porte-parole de Pop-Up, une initiative pluraliste qui a pour objectif d'intégrer des éléments de culture populaire dans la programmation de Mons 2015. Vincent Dufoin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Picardie Laïque, la régionale du Centre d'Action Laïque dans la région de Mons-Borinage. Vous êtes également le cofondateur de Pop-Up, dont vous nous parlerez plus en détail d'ici quelques instants. Et j'ai également le plaisir de recevoir Laurence Adam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice d'Article 27 Bruxelles, dont le travail consiste à faciliter l'accès à la culture pour les publics en situation de fragilité sociale et économique. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ouvrir cette émission, je vous propose tout d'abord de revenir sur cette initiative Pop-Up. Dominique Guéraumes, de quoi s'agit-il exactement?
On a pris l'initiative à quelques-uns, dont les membres fondateurs, parce qu'on se rendait compte qu'au niveau culturel, dans la région de Mons-Borinage et du centre, on avait une offre culturelle qui était élitiste et qui ne permettait pas aux gens de véritablement pouvoir être acteurs d'une propre production culturelle. Et donc on a profité de la préparation de Marseille 2013 pour aller jusqu'à Marseille en 2011 et rencontrer l'équipe à la fois officielle et aussi le OFF de Marseille.
Et donc ici, vous reproduisez la même chose dans le cadre de Mons 2015. Donc Pop-Up, c'est quoi? C'est le OFF de Mons 2015?
Donc suite à cette visite de Marseille, on s'est rendu compte que le OFF qu'ils offraient à Marseille ne nous correspondait pas. Et donc on a décidé de faire du IN, mais alternatif.
C'est-à-dire que vous travaillez donc en relation avec Mons 2015?
Donc on travaille en relation, on s'est fait reconnaître également comme association OSBL, mais enfin comme association participante. Et donc nous avons un budget propre qui est financé entre autres par la Fondation, mais nous avons une programmation tout à fait autonome. Et donc ça a été les conditions évidemment de notre participation dans un IN alternatif, c'est de garder l'autonomie de la programmation.
Alors avant de préciser cette programmation, peut-être pouvez-vous nous expliquer de qui s'agit-il? Qui est à l'initiative? On a parlé d'initiative pluraliste. Qu'entend-on par là?
Mais donc, en fait, toutes les grandes tendances, je dirais, philosophiques sont présentes. Donc, il y a effectivement le CAL qui est présent, il y a effectivement le mouvement ouvrier chrétien, il y a le PAC aussi au niveau socialiste qui est présent, mais également des maisons de jeunes, également des artistes, puisque l'originalité, c'est à la fois réunir le monde associatif et les artistes, et de faire cette fusion entre, je dirais, les milieux populaires, les associations et le monde artistique, et les artistes en particulier. Et donc c'est à peu près une soixantaine de personnes qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour Pop-Up Virus Culturel.
Vincent Dufoin, justement la programmation de Pop-Up dans ce cadre Mons 2015, quels sont les types d'activités, les types d'événements que vous proposez?
Je voudrais d'abord dire, alors à terme de mon intervention, qu'on a une volonté de pérennité également. Donc on ne sait pas du tout braqué sur Mons 2015. Comme Dominique a expliqué, Mons 2015 est un prétexte pour nous, pour dénoncer une pratique élitiste de la culture et pour offrir autre chose. Et donc dans le cadre de notre existence, qui est pour le moment liée jusqu'à fin de l'année à la fondation Mons 2015, nous avons quatre axes de travail complémentaires. Nous avons d'abord un local que nous avons créé à Mons qui s'appelle l'espace 59. C'est pas très original parce que c'est au 59 rue des Capucins, mais bon, la fondation c'est le 106, parce que c'est au 106 rue Nimi, donc voilà. Et là, donc, c'est un lieu dédié essentiellement aux expositions. Donc, il y a des artistes, il y a à peu près un artiste différent toutes les trois semaines, et nous lui imposons une démarche d'éducation permanente vis-à-vis du public. C'est aussi notre camp de base où nous faisons nos réunions, etc. Nous avons une deuxième salle dans l'entité de Mons, qui est à Avray, qui s'appelle La Poudrière. C'est une ancienne friche industrielle. Et là, c'est dédié essentiellement à la résidence d'artistes et également aux concerts. Donc il y a des concerts régulièrement organisés. Alors le gros de notre action qui va être le plus visible cette année, c'est en fait un programme sur l'année, un voyage à travers la région Mons-Brenage-Centre qui va se faire en 5 étapes. La première étape a eu lieu ce vendredi. Nous avons eu à peu près 250 personnes, donc ce qui augure d'une belle réussite. Et puis nous allons avoir 3 étapes dédiées à des thématiques différentes. Ces thématiques, ça va être la diversité, la rencontre, la liberté, etc. Et puis nous allons organiser, puisque nous avons embarqué un débarcadère à la Maison Folie à Mons, au mois de novembre, du 20 au 22 novembre. Et nous terminerons l'année par un colloque européen également sur les initiatives de résistance européenne, initiatives de résistance à la culture, justement, telle qu'elle est envisagée au niveau des instances officielles. Et le 4e axe de travail que nous avons, c'est la labellisation des activités de nos membres. Donc, comme Dominique l'a dit, nous avons 60 de membres qui sont soit des associations, soit des artistes. Nous leur proposons que Pop-Up labellise leur activité. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en avant au niveau communication, mise en avant au niveau de la renommée également de la plateforme Pop-Up.
Alors, en quoi ces différentes activités dont vous venez de nous parler relèvent-elles réellement de la culture populaire, selon vous?
La culture populaire, c'est un grand débat, hein, donc on n'a pas trouvé mieux pour la qualifier. Pour nous, qu'est-ce que c'est la culture populaire? Derrière ça, qu'est-ce que l'on met? Eh bien, c'est le fait, c'est un double mouvement. Le premier mouvement, c'est que les personnes qui n'ont pas accès à la culture parce qu'ils n'ont pas les clés d'accès à la culture officielle puissent les obtenir et puissent donc participer, puissent comprendre ce qu'on leur offre, puisque la majorité des cas, la culture officielle est une culture malheureusement élitiste. Et l'autre côté qui fait vraiment la particularité de Pop-Up, c'est que l'on fait en sorte que toute personne puisse développer le fait qu'il est un acteur culturel. En fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont des acteurs culturels sans le savoir ou qu'ils le font sans le savoir ou qu'ils le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Et donc, nous avons la particularité, toutes les structures qui ont créé Pop-Up, d'avoir de travailler avec un public précarisé socioculturellement. Et donc, la démarche de Pop-Up, c'est justement de faire en sorte que ces personnes puissent devenir des acteurs culturels. Nous mettons en place toute une série de mécanismes pour qu'ils puissent le faire. Et ce que nous proposons dans Pop-Up, c'est la plupart du temps le résultat de cette démarche d'atelier en amont, etc.
Laurence Adam, Vincent Dufoin vient d'évoquer justement la difficulté aussi d'accès, les barrières qui existent pour l'accès à la culture. C'est précisément l'objet de travail d'article 27. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quel esprit fonctionne et travaille article 27 ?
Article 27 essaie d'établir des liens entre une série d'associations sociales et d'institutions culturelles. On travaille avec des associations sociales pour trouver un public qui subit une situation de pauvreté. En fait, on ne travaille pas directement avec les gens, mais seulement via les associations sociales.
Vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on saisisse bien ?
CPS, maison d'accueil, centre de santé mentale, insertion socio-professionnelle, centre d'alphabétisation, voilà.
Très très large.
Des structures qui luttent contre la pauvreté. Oui.
Et donc, avec ces associations sociales, vous vous mettez en lien avec des associations culturelles pour permettre quoi ? Quel type de rencontre exactement ?
Mais pour pouvoir permettre, c'est ce qu'évoquait monsieur, donc l'échange n'est pas toujours évident, ne va pas toujours de soi, déjà en raison de la situation sociale des gens. Quand on travaille avec des personnes qui luttent contre la pauvreté, c'est leur propre pauvreté aussi, mais dans le sens économique. Tous les jours, elles doivent assurer leur survie au quotidien, c'est un combat permanent. Donc la culture, c'est quelque chose qui ne va pas être tout de suite envisagé, en tout cas pour directement son épanouissement ne va pas être envisagé, parce que d'abord il va falloir assurer sa survie. Donc ce qu'on essaie de faire avec les publics, c'est déjà organiser des temps pour que les gens aient l'occasion de réfléchir à ce que c'est, qui ils sont en tant qu'être culturel, pourquoi, et alimenter cette réflexion-là à partir d'œuvres d'art. Ça, c'est un petit peu notre entrée. Et donc, c'est le lien qu'on fait vers les institutions culturelles. D'abord, on leur demande une diminution de prix pour que les publics puissent y aller. Ça, c'est tout le mécanisme d'article 27. Mais aussi, on leur demande de s'ouvrir au public et pas seulement en peut-être transférant des codes d'accès, on va dire, mais aussi vraiment en se déplaçant. Et donc, on voit des institutions culturelles qui vont dans les associations sociales et qui vont proposer des ateliers, etc. On voit aussi des institutions culturelles qui vont proposer que des publics à l'issue de représentations puissent produire quelque chose et qu'il y ait une trace. Ou bien il y a des comités culturels qui s'organisent, des comités de spectateurs au sein des institutions culturelles, et là on va retrouver des publics qui vont avoir quelque chose à dire et il va y avoir un échange qui va s'organiser avec les artistes. Nous, à article 27, notre spécificité certainement, c'est de pas opposer l'accès à la culture institutionnelle et la pratique artistique. Pour nous, c'est aussi cette espèce de rencontre qui va faire en sorte que, déjà, c'est de pouvoir concevoir une personne dans sa globalité. Elle est aussi bien lectrice et elle pourrait être écrivain, et on va pas opposer l'un et l'autre. Mais on va pouvoir organiser un ensemble de dispositifs qui vont permettre les deux.
Est-ce qu'on peut dire que les barrières qui existent pour justement peut-être rendre plus hermétiques certains lieux culturels, les lieux qu'on qualifierait ici de culture dite institutionnelle, est-ce que cette barrière ne travaille pas de deux façons ? D'une part, elle psychologiquement, elle empêche certains publics de franchir le seuil de ces lieux, et est-ce que d'autre part, ces lieux rendent leur porte d'entrée plus hermétique pour peut-être, ne fût-ce qu'inconsciemment, empêcher l'accès à des publics qui ne sont pas habitués de fréquenter ces lieux ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je crois que on est aussi dans un moment où c'est en train d'évoluer. Je pense que même les institutions culturelles n'avaient pas elles-mêmes la conscience de porter leurs propres freins, enfin que leur porte d'entrée c'était en fait une grille, c'était un obstacle en soi. Et donc ça c'est un travail de fourmi, de pouvoir parler de ça, de voir comment on peut faciliter l'accès et ouvrir ses portes.
Parce que dans la pratique quotidienne de votre travail, vous observez encore certaines réticences de certains lieux culturels à s'ouvrir à des publics qui ne sont pas habitués.
Évidemment, puis il y en a qui font semblant.
Ça se manifeste comment ?
Donc on va avoir des institutions culturelles qui vont énoncer le fait qu'elles ont un projet de quartier, et en fait effectivement, il y aura bien un projet participatif où les gens vont participer à un atelier, etc. Mais en fait, la personne qui sera au courant de cet atelier sera la personne en charge de la relation avec le quartier, et puis peut-être le directeur technique ou le régisseur, et puis personne ne viendra de la part de l'institution culturelle, et puis ce ne sera pas dans la programmation, ce sera en cachette presque, mais juste pour avoir des financements, oui bien sûr, et ça arrive. Alors là, c'est vraiment conscient, et ça va être juste une opportunité pour avoir de l'argent. Parfois, c'est pas conscient, ils disent juste qu'en restituant des clés de compréhension des œuvres, c'est suffisant. Ils ne voient pas qu'elles n'ont pas cette conscience de devoir faire ce chemin pour aller vers les publics et les amener et voir elles-mêmes changer, transformer leur programmation à ce moment-là.
Dominique Guéroumes, Vincent Dufoin, cette réalité que Laurence Adam vient de décrire, c'est précisément ça qui est entre autres à la base, à l'initiative de Pop-Up ?
Mais peut-être une nuance aussi sur ce qu'on appelle la culture institutionnelle. Moi je pense que par exemple à travers le décret des centres culturels, etc., il y a effectivement une obligation normalement de travailler avec entre guillemets les milieux populaires, mais effectivement un certain nombre se cachent et font semblant, et particulièrement à Mons, puisque le manège est hors décret, et donc ce n'est même pas un centre culturel, et donc là on est vraiment sur des confrontations immédiates par rapport au public auquel on parle. Et alors nous on ne parle pas vraiment de culture institutionnelle, mais plutôt de culture élitiste ou commercial. C'est un peu ça, je dirais, qui fait notre fonction politique avec un grand P. C'est véritablement contre la culture élitiste et commerciale. Et justement, pour faire ressortir le fait que les gens qui travaillent, enfin qui sont dans les milieux populaires, etc., sont eux-mêmes créateurs et acteurs de culture. Je pense que c'est hyper important. Et le slogan qu'on a, qui résume bien, je trouve, l'état d'esprit, c'est rendre visibles les invisibles.
Alors, je vous propose peut-être maintenant de faire une courte pause musicale, avant de revenir en deuxième partie d'émission sur ce débat qui va nous préoccuper, hein, culture élitiste, commerciale, institutionnelle, populaire. On va voir un petit peu comment on peut définir les choses, et si c'est possible aussi de cloisonner aussi hermétiquement ces différents domaines. Je vous propose de faire cette pause en compagnie d'Oxmo Puccino, un chanteur de rap français que certains appellent le Jacques Brel noir, pour la qualité de ses textes notamment. Le morceau s'intitule 365 jours. On se retrouve juste après.
C'est de l'argent, sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte,
et la mort à tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20 heures. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espires. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu laisses bien. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. C'est des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu laisses bien. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
100 du foin, on vient d'entendre Oxmo Puccino, je disais un morceau de rap avec une attention particulière aux paroles notamment. Le rap, c'est de la culture populaire pour vous ?
Tout à fait, tout à fait. La culture, moi je l'apprends au sens, enfin nous l'apprenons au sens très large, tel que l'UNESCO l'a défini. La culture, c'est tout ce qui fait l'identité de la personne, donc c'est tout ce qui fait qu'elle est elle individuellement dans un collectif. Donc effectivement, oui, c'est de la culture.
Alors qu'est-ce qui la différencie justement de la culture dite institutionnelle ? C'est uniquement lié au public qui la fréquente, aux subsides dont il bénéficie ou au regard que l'opinion publique porte sur elle ?
Le problème au niveau européen, donc ça concerne toute l'Europe occidentale, c'est que la culture telle qu'elle est envisagée se résume la plupart du temps aux beaux-arts. Et donc c'est des œuvres qui sont pas nécessairement liées au temps présent, qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Et donc il y a un problème de code d'accès à cette culture. Je pense que si on présente un tableau de Rembrandt à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça parce qu'il a d'autres priorités, comme Madame disait, il cherche un toit, il a faim, etc. Mais si on lui explique les codes d'accès qu'il faut rentrer dedans, il va comprendre. Le problème, c'est qu'on présente cette culture comme quelque chose qui est vraiment là, un package, quoi. Enfin, on lui dit, si t'adhères à ça, ben voilà, t'es quelqu'un de cultivé, tu comprends pas, ben tant pis. Et alors, il y a ce que Dominique disait, c'est aussi l'autre pan qui est la culture commerciale, l'entertainment, qu'on fait passer pour de la culture. Alors, j'ai rien...
Vous pensez à quoi, par exemple, quand vous dites ça?
Je prends The Voice, par exemple. Enfin, à toutes les émissions qu'on a actuellement, que ce soit dans le domaine culinaire, chansons, etc. Je n'ai rien contre ça et rien contre les gens qui pratiquent ça, s'ils trouvent leur épanouissement en le faisant ou en regardant, tant mieux. Mais c'est de la culture fast-food, quoi. Hein? Donc c'est quelque chose là qui semble être facilement appréhensible par la majorité des gens, mais c'est un autre pan de tout l'univers culturel. Et ça, c'est vraiment de la culture commerciale qu'on consomme comme ça. Il n'y a pas besoin de code pour consommer ça. Ça fait quoi? Ça fait vendre la publicité qui est autour. Entre les deux, il y a une énorme friche. Et dans cette énorme friche, il y a une place énorme pour que tout un chacun soit un acteur culturel. Et je pense que le rap est vraiment un très très bon média pour ça, parce que ça, la plupart du temps, les morceaux de rap non commerciaux, bien sûr, hein, quand on voit dans les maisons de jeunes, etc., ça permet aux jeunes de s'exprimer sur quelque chose qui les touche. Alors moi, ça m'énerve profondément quand des gens qui ont décidé de ce qu'était la culture disent « Ouais, mais du rap, c'est pas de la culture. » Il n'est pas... je trouve qu'il est complètement idiot d'aller opposer Jacques Brel à un chanteur de rap, par exemple. C'est deux choses totalement différentes. Mais Jacques Brel, d'une certaine manière, ben, rejoint aussi la culture peut-être plus hermétique, parce que c'est plus ancien. Mais le tout aussi, c'est de donner les codes d'accès. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand vous passez le morceau ici, ou quand il y a Stromae, on dit, on fait référence à Jacques Brel. Et donc là, ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'au-delà de ça, ben, on puisse expliquer qui était Jacques Brel, son œuvre, sa réalité, etc.
Dominique Guérôme, c'est vous qui aviez utilisé l'expression tout à l'heure de culture commerciale, justement. Mais jusqu'à quel point est-ce que ce qui fait preuve de commerce peut encore être qualifié de culture?
Moi, je poserais la question autrement. Pour moi, la culture, c'est du vivre ensemble. Le commerce, c'est pas du vivre ensemble. Et donc, moi, je pense que la culture, ce sont des petits gestes de tous les jours qui font, à un moment donné, corps. Et ce corps peut avoir une expression culturelle. Mais la culture est d'abord quelque chose qu'on construit en soi-même, puis qu'on partage avec les autres, puis on en fait un projet, on en fait une œuvre, on en fait un art plastique, peu importe. Et donc, pour moi, la culture, enfin la culture commerciale, c'est pas de la culture, c'est un produit qu'on vend, c'est tout. Et donc, moi, j'ai pas de souci avec les produits qu'on vend, parce que parfois qu'ils sont sympas, hein, faut le reconnaître, hein, soyons pas hypocrites. Mais pour moi, la culture, c'est d'abord du vivre ensemble.
Vous rejoignez cette définition de la culture, Laurence Adam ?
Oui, peut-être que j'aurais envie plus de préciser par rapport au rapport à la culture. Peut-être que quand on est en situation de pauvreté, quand on subit une situation de pauvreté, ce qui se passe peut-être, c'est que les fils tendus vers l'extérieur sont réduits. Et comment l'accès à la culture, alors, va être aussi réduit. Et donc, on va avoir un accès peut-être plus facile vers la télévision, parce que c'est accessible chez soi, mais ça va être plus difficile d'aller vers l'art contemporain, ou vers l'art classique, ou vers un lieu, justement, par son architecture, qui va être un petit peu éloigné. Et donc, l'accès à la culture, et surtout la participation à la vie culturelle de notre communauté, pour nous, Article 27, alors ce serait de pouvoir établir et rétablir une multitude de fils vers l'extérieur, et pour faire en sorte que les personnes se renforcent, puissent se sentir aussi légitimes que d'autres à avoir un avis sur les œuvres, et pourquoi pas à produire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'éviterais d'opposer l'un et l'autre, mais plutôt de multiplier les entrées, quoi. Et
moi, je voudrais rebondir sur ce que madame disait, parce que bon, j'ai dans mon parcours professionnel géré un Resto du Cœur à un moment, et on participait quelquefois à des visites, par exemple à l'opéra, au théâtre. C'est des choses que j'ai abandonnées s'il n'y a pas un travail en amont et en aval, parce qu'alors ça fait un peu zoo, quoi. Hein. Donc c'est l'idée de dire, mais on va aller vous montrer quelque chose, vous verrez une fois dans votre vie. Mais si c'est nous montrer à ces personnes-là quelque chose qui ne vont jamais utiliser par après, ben c'est encore renforcer leur sentiment d'infériorité, leur sentiment de culpabilité. Donc maintenant, on va plutôt vers le fait de faire cette visite en aval de tout un travail avant, expliquer ce qu'est l'opéra, et voilà. Et donc les gens après nous prennent pas, mais nous, le but, je pense, de votre démarche ou de la nôtre, c'est que quand les personnes ont pris contact avec quelque chose qu'ils connaissent pas, ils continuent à le pratiquer. Ce serait comme visiter une bibliothèque en disant, vous voyez, il y a des livres partout, vous êtes content, vous l'avez vu, mais merci, au revoir. Non, le but de visiter une bibliothèque,
abonnez-vous,
c'est que les gens après fassent la démarche pour aller consulter les livres et pour lire.
C'est précisément la méthode utilisée par Article 27, mais en fin de compte, quels sont les résultats obtenus? Est-ce que vous avez des exemples comme ça de gens qui, en découvrant des lieux culturels qu'ils ignoraient absolument, finissent par découvrir un pan intellectuel dans lequel ils s'épanouissent?
Mais oui, c'est nombreux. Enfin, on a des exemples énormes. En tout cas, par exemple, à Bruxelles, il y a 36 000 tickets qui sont utilisées auprès des lieux culturels, et c'est très diversifié, hein. On va retrouver aussi bien en tête des centres culturels que du théâtre plus classique. Enfin, c'est... Mais il y a toute une démarche qui est faite, et évidemment par les travailleurs sociaux qui accompagnent au quotidien les publics, et donc l'ouverture par rapport au travail des travailleurs culturels vers ces secteurs-là. Les travailleurs sociaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont de plus en plus concerter les publics, expliquer tout ce à quoi les gens peuvent avoir accès, et puis après les accompagner. Alors après, les accompagner, ça va être peut-être nécessaire de le faire une fois, parce que juste pour qu'on se sente à l'aise, etc. Puis alors d'autres gens vont, à partir de là, continuer de manière individuelle. Il y en a d'autres qui voudront toujours aller en groupe, parce que, enfin, moi franchement, j'aime pas aller au théâtre toute seule, j'ai envie de partager, et pour les, enfin, un peu, c'est un peu le cas pour des tas de gens, peu importe les ressources, voilà, financières ou autres. Donc voilà, il y a quelque chose qui est important, c'est de restituer, de faire prendre cette faire prendre conscience que c'est un droit, cet accès à l'offre culturelle, et aussi de se prévaloir de sa dimension culturelle. Tout le monde est porteur de culture, donc tout le monde a une possibilité de rentrer en lien avec la culture.
Dominique Guérôme, s'il nous reste 3 minutes, même un peu moins, pour conclure cette émission, je voudrais peut-être simplement vous soumettre cette réflexion et vous entendre à ce sujet. En fin de compte, ces barrières que l'on vient de décrire au long de cette émission, est-ce qu'elles ne témoignent pas simplement d'un clivage plus large qui existe réellement dans notre société, où en fin de compte, les espaces de rencontre entre les publics différents se restreignent ou sont en tout cas très limités?
Et donc ça, c'est tout à fait vrai, et je vais vous donner un exemple parce que ça parle plus. On avait une thématique qui était travail et résistance, et on a mis en place 18 groupes de personnes qui étaient soit en alphabétisation, soit en insertion sociale et professionnelle, etc. Et on les a d'abord fait parler sur la question du travail, sur la résistance, etc. Et puis ensuite on a demandé à des artistes de venir les écouter, et ensemble ils ont fait une œuvre, quoi. Et c'est cette rencontre là qui fait qu'on casse les barrières dont vous parlez. C'est à un moment donné, on parle de ce que les gens sont. Ils ont fait des choses remarquables. Maintenant, ils sont exposés, ces choses-là, soit des vidéos, soit des photos, soit de l'art plastique, etc. Et ça, c'est une valorisation, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont acteurs de culture à ce moment-là. Et ils cassent les barrières. C'est les fils dont vous parliez, et c'est ça qui est important.
Vincent Dufoin, je vous laisse quelques secondes pour conclure, éventuellement lancer un appel et rappeler au public ce que le public va pouvoir découvrir au cours de cette année Mons 2015 et bien après, si j'ai bien compris, à travers les activités pop-up.
Oui, donc ici, notre première manifestation majeure, c'est notre première escale qui aura lieu du 22 au 25 avril à Bois-du-Luc, dans l'entité de la Louvière, qui est déjà un site remarquable, un ancien site industriel à découvrir. Et donc là, on va avoir un programme très très riche, musique, théâtre, expo. Enfin, c'est le Cité Métis existe depuis 6 ans, donc c'est la 7e édition qui est mise cette année sous l'égide de Pop-Up. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Dominique, on est vraiment là dans l'âme du métissage. Donc le métissage culturel, le métissage social, faire ensemble que tout le monde puisse vivre un moment ensemble et faire tomber ses barrières. Ensuite, il y aura une deuxième escale qui sera portée plus particulièrement par les organisations qui dépendent de Dominique, donc qui va se faire au fond du Petit Marais, qui est un endroit à Mons, hein, je map. Donc là, on va être dans le domaine de la résistance. Et puis après, nous aurons une troisième escale autour des cultures urbaines, à Mons également.
Vite, rapidement, pour que je puisse conclure également, un site internet.
Oui, donc c'est www.virusculturel.com.
Merci beaucoup Vincent Dufoin, Dominique Guérôme, Laurence Adam d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir pris le temps de venir nous éclairer au sujet de ces différentes facettes de la culture. Merci à vous aussi, chers auditeurs, évidemment, de nous avoir suivis, spécialement cette heure inhabituellement tardive. La semaine prochaine, nous retrouverons notre horaire habituel. Rendez-vous donc samedi à 19h05 sur la première pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. J'en profite également pour rendre un hommage à Yannick Samzin, secrétaire général de PAC Présence et Action Culturelle, cofondateur de Pop-Up, décédé le 23 décembre dernier. Il avait 60 ans. Nous pensons à lui et à ses proches. Bonsoir.